Max, le show qui vient de gagner 25 ans d'expérience d'une shot. Avec Catherine Bachan et Max Larouche. 102.1
10h23 dans le Point de Max à Boulevard 102.1. S'il y a quoi que ce soit sur les routes, 418-971-1021 pour nous rejoindre en studio par texto. Et n'hésitez pas à le faire aussi si vous avez des questions, des commentaires, des insultes, peu importe, 418-971-1021. Le Journal de Québec nous apprend ce matin que le gouvernement du Québec veut créer une société informatique avec CGI, une entreprise privée, pour réduire sa dépendance aux géants du web pour ses prochains gros projets numériques. Quand on veut parler d'informatique, de cybersécurité, ben le premier nom auquel on pense, c'est celui de Steve Waterhouse. Salut Steve!
Bonjour Maxime, bonjour Catherine.
Bonjour.
Si, Steve, on met de côté le fait que Québec a de la misère à gérer ses affaires, là, cette idée-là d'un partenariat entre un gouvernement et une entreprise privée au niveau de la cybersécurité et de ce qui est numérique, est-ce que ça t'apparaît comme une bonne idée?
Ben, on va juste s'élever un petit peu plus haut de la discussion cybersécurité numérique parce que là, c'est vraiment des ententes d'affaires. Et on doit, en tout cas, juste pour... se rappeler un petit peu des choses du passé. Je vous ramène en 2002. Est-ce que InnovaPost, ça vous dit quelque chose, ça, vous autres?
Moi, non.
Moi non plus.
Non plus, hein, parce que ça n'a pas été trop publicisé au public. Mais ça, ça a été le consortium que CGI et le Poste Canada ont formé. Poste Canada propriétaire de cette petite entreprise à 51% et CGI à 49%.
Oh.
Et qui avait pour objectif pas mal qu'est-ce qu'on retrouve ce matin dans le journal. Donc, réduction significative des coûts TI, atteindre une économie de 24% sur la gestion des infrastructures dès 2004, générer des revenus auprès d'administrations postales étrangères, puis apporter des capacités de développement applicatif de calibre mondial. Et tout ça, ça s'est terminé en début d'année 2024 avec justement la vente de ce consortium-là qui a eu des pertes de milliards de dollars et que c'est maintenant Deloitte qui s'occupe de gérer l'informatique. Fait qu'autrement dit, il y a eu ce même genre de proposition-là dans le passé et qui n'a pas été très florissant, très lucratif. Ça n'a pas sauvé trop d'argent, mais ça a créé quand même beaucoup de conflits d'intérêts que moi, en tout cas, je vois ici comme étant un gros danger, disons, un gros drapeau qui lève pour avertir que ça risque de flancher.
Le fameux concept de souveraineté numérique, Steve, j'ai l'impression que ça revient souvent dans l'actualité, puis que c'est quasiment rendu un mot galvaudé qu'on se demande même plus trop qu'est-ce que ça veut dire. Pour garder, ben, en fait, de garder nos données chez nous, pas les envoyer aux États-Unis, c'est-tu quelque chose qui est vraiment important au point de se dire, OK, oui, là, faut trouver une solution, OK, oui, on va s'associer au privé?
Ben c'est devenu important, oui, parce qu'avec le changement d'administration chez nos voisins du Sud, ils ont démontré qu'ils ont une flexibilité d'interprétation des termes judiciaires. Fait que juste pour désamorcer un peu la croyance populaire que Cloud Act, c'est une permission d'aller dans le buffet de données que chez Microsoft ou d'autres, le Cloud Act, depuis 2018, c'est une procédure judiciaire qui permet aux autorités judiciaires américaines d'aller vers une compagnie américaine et de dire « voici le mandat signé par un juge de la paix, on a besoin d'investiguer telle personne qui est sa boîte Outlook, donc qui est au Canada en principe. Fait que là, ils vont aller chez Microsoft, et Microsoft, vu qu'ils voient le document légal, ben ils vont donner autorisation, ils vont donner accès, mais ils donnent pas accès, ils donnent pas les clés, puis ils vont dans la salle des serveurs te servir. Fait que c'est la même affaire que si la GRC ici, ou n'importe quel corps de police, fait une enquête. Et à ce moment-là, voici la compagnie XYZ qui héberge des données déjà ici au Canada. Ben voici mon mandat, je cherche l'information sur tel sujet pour telle et telle raison. Fait que ça change pas. Mais c'est juste qu'à un moment donné, il faut dire, oui, on a peut-être les moyens, au lieu d'aller porter tout cet argent-là à l'extérieur, de peut-être le concentrer ici, en sol québécois, en sol canadien. Et c'est ça qui est tout l'enjeu. Mais par contre, faut pas être dupe. On est en retard, ça fait 30 ans pour être en mesure d'être compétitif avec ce qui est offert sur la scène internationale.
Dans le dossier du journal, on apprend que CGI pourrait détenir jusqu'à 49 % de la nouvelle entité. Mais est-ce que c'est pas justement s'éloigner d'un principe de souveraineté si on a une compagnie privée qui détient 49 % de cette entité-là?
Bien, il y en a qui vont dire, ils vont débattre que non, parce que c'est une compagnie ici, de chez nous, du Québec, qui ça va faire cette job-là, qu'on va remplir cette condition-là d'être souverain en notre pays. Donc, une compagnie du Québec et en fait la gestion de tous les contrats informatiques. Maintenant, il y a un méchant conflit d'intérêts. Ouais. Parce que si les juges est parti, quelle est la portion là-dedans que maintenant tout ce qui est contrat public, qui va faire la distinction et comment ça va être géré si à ce moment-là, il y a une plainte? Et après coup, est-ce que CJI va permettre à des compétiteurs d'aller leur offrir de la job ou bien ils vont tout garder pour eux? Comme ça a été fait, donc, un peu dans le contrat avec InnovaPost dans le passé.
Oui, bien là, ils disent qu'ils vont être obligés de sous-traiter de 30 à 50 % auprès de compagnies québécoises.
Oui.
Mais là, après ça, c'est des compagnies qui vont peut-être avoir tendance à vouloir graisser la patte à CGI.
Bien, ça ressemble à ça.
Pour obtenir la patte du gâteau.
Okay. Ouais. Mais si on regarde l'histoire un peu, c'est dans le passé des façons de faire qui ont été de l'avant et que ayant été témoin lorsque j'ai fait mon passage au gouvernement du Québec, là, il n'y a pas longtemps, ben des contrats qui sont montés là que ça ne sert qu'à faire saigner de l'argent du gouvernement. Le gros bon sens il est absent de là, ça veut juste aller têter le dernier dollar des contribuables. Fait que déjà là, la façon de travailler, moi je la vois comme dans le passé, je ne vois pas d'amélioration jusqu'à présent, autre que ça va donner de l'argent davantage à ceux et celles qui vont monter cette compagnie-là.
Fait que si je comprends bien, Steve Waterhouse, tu sais, on parle aujourd'hui de cette idée-là en disant que ça pourrait peut-être nous éviter d'autres fiascos comme SACLIC. Il y a le dossier santé numérique aussi qui semble s'en aller un peu dans le mur. Cette façon de faire-là, ça nous aidera pas à pas recréer de SACLIC, là.
Ben disons que ça nous encourage pas à croire que ça va être une amélioration. Parce que dans ce cas ici, le contexte proposé du gouvernement du Québec avec CGI, ben ça devient un fournisseur privilégié puis il va devenir à ce moment-là captif de qu'est-ce que CGI propose comme solution. Moi, à date, c'est de même que je l'entrevois. Et si c'est ça, ben c'est pour ça que je référais tout à l'heure à l'initiative d'InnovaPost, que là, eux autres, pendant toutes ces années-là, depuis 2002 jusqu'à 2024, ben ils ont été captifs de comment ça se passait de CGI, comment ils lui proposaient la solution, comment qui ont entretenu ça toutes ces années. Fait que comment est-ce que ça serait différent au gouvernement du Québec? Fait que là, on a aussi la façon de travailler que c'est est-ce qu'on va développer la main-d'œuvre ou bien CGI, comme ils le font d'habitude, ils vont en impartition à l'international. Bon, ben ils vont-tu écrire un contrat béton pour dire que ce n'est que seulement de la main-d'œuvre québécoise qui va être à l'œuvre et non pas d'impartition sur les autres quatre autres continents à travers la planète? Ça, j'en doute. Parce que c'est comme ça qu'ils font leur argent. Puis dans les contrats actuels, les gros donneurs d'ouvrage, ils travaillent tous comme ça.
Oh oui.
Fait qu'ils vont changer cette façon de faire, j'en doute encore. Et après coup, ben, si on dit faut avoir de... on va juste y aller encore une fois pour la souveraineté des données, héberger nos données juste ici, ben qui va être capable de faire une contre-offre à qu'est-ce que Microsoft, AWS, Google proposent et qu'à ce moment-là, si la solution... elle est retenue qu'on fait ça ici au Québec, mais les pénalités dans les contrats d'hébergement vers les grands fournisseurs américains est telle que ça va coûter vraiment cher de sortir ça de là. Et si on dit, parfait, on l'assume, on le sort et on devient complètement souverain, ben là, il y a des ouvrages qui ont été promis, dans le sens qu'il y a des centres de données qui se construisent présentement à Québec, à Lévis et à Saint-Augustin-des-Morts, et qu'il y en a d'autres centres de données comme ça qui font une certaine croissance à travers le Canada et le Québec, ben on va-tu à ce moment-là dire « Désolé, le gouvernement ne s'implique plus là-dedans ». Tu sais, il y a des éléments comme ça qui sont en arrière-plan, en travail présentement, mais c'est-tu là qu'on veut vraiment aller porter nos données? Parce que même si c'est à côté du Québec, là, c'est à Saint-Augustin puis à Lévis, données, on va dire « Ah, on assure notre souveraineté de données comme ça », c'est pas vrai. Parce qu'après coup, les données, ben c'est toujours un holding américain qui va être derrière.
Mmh. Mais est-ce qu'il existe une solution pour que le Québec puisse vraiment... arriver à une souveraineté comme celle-là?
Bien, Catherine, comme je dis, on est vraiment en retard. Fait que là, il faut avoir une vision d'avenir sur les 30 prochaines années. En informatique, c'est quasi impossible.
Oui.
Mais toujours bien, comme société, il faut décider où on veut aller avec nos moyens et comment qu'on veut s'organiser. Je donne l'exemple récent. L'Europe a décidé de... Parce que les autres, l'Europe, juste donner un exemple, ça lui coûte 250 millions d'euros, je dis bien, par année en licence Microsoft. Juste en licence, là. Et là, ils ont dit, c'est assez, l'administration américaine, on vous fait plus confiance, on sort de ce conglomérat-là. Et l'Allemagne, eux autres, ils ont dit, parfait, nous autres, on s'en va avec du logiciel libre. Ça veut dire quoi? C'est du logiciel que le code est créé dans la communauté, il n'y a pas de redevance à payer, et ils ont une suite de bureautique, pareil comme Microsoft Office, légèrement différent, où il y a une petite courbe d'apprentissage à faire. Et après ça, c'est pas utiliser un Windows ou un Mac OS, c'est utiliser Linux. qui est lui-ci sans licence. Et après ça, Nextcloud est un consortium allemand qui a formé un info nuagique pour être en mesure de partager ça à tout le pays. Alors, si un pays comme l'Allemagne était capable de le faire, puis là, la migration se fait comme on se parle, bien, pourquoi qu'on ne pourrait pas prendre cette même décision-là? Mais tout ça repose sur du leadership fort, avec une conviction béton, à dire, on s'en va dans cette direction-là. Sinon, on tergiverse à toutes les 3 ans et demi, 4 ans, donc au cycle électoral, puis c'est à recommencer à chaque fois, puis c'est des milliards qu'on perd tout le temps.
Puis c'est intéressant parce que selon les documents qui ont été consultés par le journal, les besoins réels en ressources informatiques du gouvernement, c'est évalué à 19 milliards, et là, ben c'est 9 milliards réservés au PQI. On est très, très loin du compte. Puis en même temps, je me dis, OK, dans la prochaine campagne électorale, mettons, là, un parti qui arrive en disant, hey, on va mettre des milliards en ressources informatiques, on dirait c'est pas sexy, ça va pas chercher
non,
des votes. Puis, mais c'est important, là, puis il faudrait que, comme population, on soit
très
conscient.
Très intangible, hein,
ouais, un peu.
Tout à fait, mais tu sais, comme on dit, les vieilles méthodes ont toujours été dites de promettre quelques kilomètres d'asphalte, là, puis ça, c'est des votes gagnés, tu sais. Mais en informatique, vu que c'est caché, c'est en arrière-plan, puis on l'apprend toujours par après, c'est vrai que c'est pas sexy, vous le dites bien. Mais il reste toujours bien que notre société a décidé de faire une transformation numérique. Quand je dis société, c'est en général, tu sais, on se fait imposer d'aller en ligne au lieu d'aller vers un comptoir postal, un comptoir bancaire. Fait que l'autre, dans cette stratégie-là, ça a été bien mal expliqué. Et c'est toujours bien mal articulé présentement que là, on est pogné avec ce problème-là. Parce qu'on ne peut pas faire le retour à l'inverse. Là, prendre une panne électrique qui arrive, vous n'avez plus accès au système informatique. Avez-vous des formulaires papier pour remplacer le formulaire électronique? La réponse souvent, c'est non. Mmh. Alors, juste une transaction par carte de crédit, on en parlait l'autre jour. Y a-t-il encore la machine avec le rouleau pour passer sur le carbone si jamais l'électronique n'est pas disponible? La réponse, c'est non. Alors, c'est ça qu'il faut demander, penser. En l'absence d'un plan B qui est viable, ben là, faut aller all-in dans cette transformation numérique. Puis là, c'est pour ça que je dis, faut aller tout le long. Il y a eu des initiatives dans le passé. Tu sais, dans les dernières années, là, il y a eu une réduction majeure de tous les centres de traitement d'informations qui traînaient un peu partout. Ça a tout été concentré dans quelques salles de serveurs. Et ça a été un bon plan. Tu sais, il y a une vision, puis après ça, il y a une action. Même affaire avec le président ministre Bélanger, qui ont fait du déploiement de tours à cellulaire pour actualiser le service télécommunication dans les derniers milles un peu partout dans le Québec. Mais ça, c'est un projet qui est à moitié bon parce que là, le citoyen est doublé, il paye doublement, il paye pour avec ses taxes le déploiement du tour, mais en même temps, il reçoit un service, mais il paye la facture de ce service-là qu'eux autres, à bon prix, ils peuvent accrocher leurs antennes dans le tour. Mais à ce moment-là, la vision, c'est quoi? Ben d'amener la connectivité Internet un peu plus loin. Par contre, la pression n'a pas été de mettre ça sur les compagnies de télécom qui dégagent des milliards de profits par année au détriment de prendre l'argent des contribuables, encore une fois. Fait que c'est pour ça que demander, quand je parle de vision, il faut dire, hey, on embarque tout le monde, puis ça prend le privé qui embarque là-dedans, ça prend une vision politique. Pour cette vision politique-là qui fonctionne, elle doit pas s'arrêter sur 4 ans.
Steve Waterhouse, spécialiste en cybersécurité, toujours un plaisir.
Certainement. Passez une bonne journée.
Salut, à la prochaine. Au retour de la pause, l'ami Nathan Meilleur vient faire son tour, puis on va se faire une petite jasette sur la religion qui, au Québec comme ailleurs, connaît une résurgence chez les jeunes, notamment. Puis ça passe, entre autres, par les réseaux sociaux. Il y a Manon Massé qui a livré une entrevue sur le sujet au Journal de Québec ce matin. Il y a pas mal de points intéressants là-dedans. Je pense que ça va être une maudite belle jasette. En plus, on est comme 3 générations quasiment avec moi, Nathan puis Catherine. Là.
Ben on va dire assurément 3 décennies.
Ouais, c'est ça.
Dans trentaine, dans quarantaine.
On va le dire comme ça. Fait que ça s'en vient. Vous écoutez le Point de Max avec Kat Bachand et Max Larouche, 10h37.